pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards.
Oh, this you crazy mother...
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Bienvenue à toute l'équipe, salut Julie, salut Robin, salut Cagnard.
Salut, salut Maxime.
Êtes-vous en forme aujourd'hui pour défendre une dizaine de mangas?
Chaud, chaud, chaud. Peut-être pas 10. On peut commencer par
une
deux.
Une dizaine on a dit.
Carrément, carrément chaud.
Alors, ce qui se passe dans cette émission, c'est que on va vous montrer, vous proposer, vous expliquer quels sont les mangas de notre émission, les mangas à suivre, qui va avoir lieu dans deux semaines maintenant. Et vous allez devoir voter en ligne. Là, dès maintenant, là, cette émission est en ligne. Vous pouvez déjà aller voter, mais vous pouvez aussi écouter l'émission avant de voter pour les titres en question. Maintenant, vous êtes rodé hein, pour voter. Vous savez comment ça marche sur ce sondage.
Bah, tiens, faut s'inscrire sur les listes électorales.
Eh bien non, figurez-vous, c'est beaucoup plus simple ici. Alors, vous allez sur le lien qui est sur le blog, sur nos réseaux sociaux, sur nos différents réseaux sociaux de Discord à Insta et ainsi de suite, en passant par Facebook. Facebook et...
Bah pourquoi tu me regardes?
D'autres réseaux sociaux.
C'est quoi, c'est moi X?
C'était fort en réseau social.
Mais t'as regardé les autres, mais... Bah tu parlais de X quoi.
T'es fort en réseau social Cagnard.
C'est bah j'adore TikTok.
Et donc... Ah on n'est pas sur TikTok tiens.
Bah pourquoi?
Bah parce que tu t'en es toujours pas occupé tiens. Vas-y lance
parce
le TikTok
que
de l'émission.
Peut-être que c'est une application de merde et qu'on veut pas y être. J'en sais rien, je sais pas, je balance des idées moi.
Alors ce qui se passe c'est que pendant cette émission on va vous parler d'une dizaine de titres et vous allez devoir voter pour au maximum 6 d'entre eux et les 6 qui seront en tête de ce sondage seront les 6 titres qui seront au cœur de nos deux émissions, les mangas à suivre exactement comme chaque année. La seule différence c'est que là on fait une émission pour vous présenter toute la liste. Du coup, on a réduit la liste. Parce que on s'en sortait pas.
Et puis, soyons clairs, là, vous ne votez plus pour des titres. Vous votez pour des personnes de ce podcast.
Alors,
bah, il faut le dire.
Oh,
c'est
la prise d'otage sentimentale.
C'est-à-dire que là, on va quand même vous parler des 10 titres très rapidement. Et à vous de voir si vous avez finalement envie de voter pour lui ou pas. Envie de rattraper à temps pour l'émission ou pas. Ça va être le gros défi pour vous, bien choisir les mangas pour lesquels vous allez voter et lesquels seront les 6 mangas de nos mangas à suivre, de nos émissions maintenant annuelles, de notre marronnier du mois d'avril. Et on commence avec le premier qui est Akane Banashi, une ado qui veut devenir star du Rakugo pour venger son père. En transformant un art que je qualifierais d'un peu poussiéreux ou d'un peu inconnu pour nous en français, en arme de scène. Et ce manga, pourquoi vous allez pouvoir le choisir? Bah peut-être que vous êtes nombreux à le lire régulièrement et à l'acheter, que c'est un carton du Jump. Et puis que ce manga, en fait, c'est un manga de sport. Et ça, on oublie souvent de le dire, mais Akane Banashi, c'est comme un manga de sport, sauf que le sport, c'est le Rakugo. C'est quasiment pareil. On a toute la tension digne d'un manga de sport du Jump avec le côté accessible pour le Rakugo, la découverte du Rakugo. Là aussi, c'est super intéressant. J'aurais aimé en parler avec Johnny qui est l'autre fan du titre de l'équipe, mais il n'a pas pu être avec nous ce soir pour l'enregistrement. Mais dans Akane Banashi, ce qu'on a aussi, c'est une héroïne qui est absolument charismatique, qui est travailleuse. Pour le coup, on est loin des petits glandeurs du Jump habituel.
Ah bah c'est vrai.
Qui ont des super talents.
Il
n'y
a que ça dans le Jump des glandeurs.
Regarde
Naruto. Magazine des glandeurs.
Regarde Luffy.
Que des glandeurs.
Exactement. Eux, genre, ils ont du talent. Mais elle travaille. Elle n'est jamais cheatée. Et puis la mise en scène est assez brillante. On ressent bien les performances comme on ressent un match de foot, comme on ressent un match de basket, comme on ressent un combat de sumo. Bref, c'est un vrai manga de sport qui te provoque les mêmes émotions que le manga de sport en général.
Tu veux que je fasse Johnny?
Oui, tu peux faire Johnny si tu veux.
Bah, de toute façon, Akane Banashi, c'est déjà un manga qui, de base, traite un des sujets les plus rares dans le manga, c'est-à-dire l'humour. Et effectivement, réussir à en faire quelque chose de sportif, bah, c'est vraiment l'exploit de ce manga. Alors, s'il vous plaît, votez pour Akane Banashi, parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aller, ça, au final, cette histoire de tournoi sportif humoristique.
Tu fais super bien, Johnny.
Ouais,
dis donc. Akane Banashi, aujourd'hui, il y a 13 tomes disponibles en France. C'est signé Takamasa Moe et Yukisue Naga. Et c'est aux éditions Kihun. C'est le premier des mangas pour lequel vous pouvez voter. Mais ce n'est pas le seul. On peut aussi parler de Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. L'histoire d'un détective assez cool en Islande qui cherche son frère et qui se perd dans des paysages qui semblent cacher beaucoup plus que des secrets. C'est une ambiance contemplative, une ambiance assez rare, un peu sensorielle. Ça donne envie d'aller en Islande.
Bah, c'est super sensuel comme manga, franchement.
Tu le sais pas tout de suite que c'est sensuel.
Ouais, sensuel.
Si, quand même, parce qu'il y a quand même une place centrale accordée à la nourriture, aux sensations, le froid, le vent, enfin tout le côté...
Mais ça, c'est sensoriel, c'est pas sensuel.
Bah, c'est quand même un peu sur la même corde, je suis désolée. Et puis, il y a quand même la beauté des dessins.
Il y a deux mots différents.
Qui font que c'est quand même un manga qui joue sur le plaisir que tu peux avoir à regarder des belles choses, à manger des bonnes choses, à passer du temps de façon agréable et qui est un peu, comment dire, il y a une petite griffe qui vient rayer cette vitre très lisse, très, très jolie, très belle, en faisant crisser comme ça, parce qu'on se demande mais qui est... est-ce que ce frère mystérieux dont on ne sait presque rien est un meurtrier ou pas ? Donc il y a la tension quand même du thriller qui apparaît aussi derrière la vitre de toutes ces jolies choses, quoi.
Mais c'est vrai qu'elle a raison, Julie, parce que en vrai, le début du manga, c'est un peu un manga de kiffeur, hein. Le héros, c'est vraiment un kiffeur. Il kiffe sa vie dans les grandes étendues de glace. Il kiffe ce qu'il mange et compagnie. Et oui, il y a ce petit truc qui commence à bugger au bout d'un moment dans l'histoire. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus attiré dans cette série. C'est vraiment genre, il y a un mystère. Et après, vraiment, c'est le maître mot de ce manga. C'est l'enquête mystérieuse. Et comme tu dis, Julie, les dessins qui correspondent parfaitement à, tu sais, l'ambiance un peu évanescente du manga, tu vois. C'est très mystérieux. Moi, j'adore les trucs mystérieux.
Et puis, c'est au début, tout du moins, on est en Islande. C'est incroyable en termes de paysage.
Ouais, ça en jette.
Ouais. Puis en plus, c'est le genre de pays où t'es curieux.
Après, je te cache pas que le manga, il essaye de nous apprendre des trucs, hein, quand même. Et ça a toujours tendance à m'énerver un peu.
Mais tu veux dire comment parler aux machines ?
Non, même sur la culture, tu vois, la culture du pays.
C'est léger. Ouais, mais je l'ai
senti. Oui, je l'ai senti. C'est pas Golden Kamuy non plus.
Oui, voilà, c'est vrai. Tu n'as pas le glossaire pour parler Ainu à la fin non plus. Tu parles pas.
C'est vite fait.
Islandais à la fin non plus.
Non, mais je le dis. Je dis. Voilà. Moi, je trouve que n'essaye pas de m'apprendre des trucs, manga.
N'essaiera pas de te faire prononcer. C'est le nom de ce volcan incroyable qui avait bloqué toute l'Europe il y a longtemps.
Je veux bien, mais avec plusieurs essais.
Mais on n'a aucune idée de ce qu'on s'écrit, ni même si t'aurais bon.
Bah d'ailleurs, c'est le titre d'un film français avec de la Mel de Bouze.
Avec Danny Boone.
Danny Boone, t'as raison. Ouais.
Mais je crois qu'ils ont changé le titre après, pour la version DVD. Bah, ils ont mis un sous-titre français.
Ouais, pour la zone 2, ils ont...
Ouais, ouais. C'est bizarre, tu préfères laisser les gens en galère au cinéma, du coup...
Ça va être drôle aussi.
Dans le sens du vent, c'est un manga de Aki Irie. C'est donc aussi une enquête. C'est donc aussi un manga fantastique parce que le héros n'est pas dénué de pouvoir.
Oui, mais enfin, certains personnages, en fait, il est dans une espèce de lignée comme ça de gens qui ont des dons. De parler à des objets, à des animaux. Enfin, ça aussi, c'est très mystérieux parce que c'est présenté comme quelque chose de naturel qu'ils font comme ça, de façon très, très simple et qui les aide beaucoup finalement dans la vraie vie. Et il y a cette espèce de charme aussi très moderne de... la famille, c'est pas forcément quelque chose de traditionnel. La nature, c'est des choses qui se contemplent et qui s'apprécient. Enfin, donc, je suis toujours très, très contente d'avoir un nouveau tome de cette série. Et j'ai très, très, très hâte de pouvoir lire la suite. Alors, si déjà on pouvait en parler un petit peu plus, ça me ferait très, très plaisir.
C'est aussi très beau, très hypnotique. Et surtout, il y a un élément essentiel qu'il faut savoir. si nous on n'en parle pas, qui va en parler de ce manga?
Et Julie a raison, ça fait un moment qu'on en a pas parlé. On en avait beaucoup parlé au début de la série et ça serait pas mal de remettre un petit coup de projecteur dessus.
C'est dispo aux éditions Soleil Manga, c'est 7 tomes déjà disponibles en France tout comme au Japon d'ailleurs. Et vous pouvez aller voter sur le sondage directement pour Dans le sens du vent. Parlons maintenant de Darwin's Incident. On a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises, mais alors là il y a eu un petit regain de popularité parce qu'il y a un animé qui est sorti, un animé qui a fait bugger aussi pas mal de gens sur les réseaux parce qu'ils ont eu du mal à comprendre exactement de quoi parlait ce manga, l'histoire d'un ado mi-humain mi-chimpanzé qui devient le symbole malgré lui d'un monde qui ne sait plus vraiment définir l'humain et la place des uns et la place des autres. On y parle de sujets brûlants, d'écologisme, d'activisme, on y parle de radicalité, on y parle d'amour aussi. Un concept de science-fiction qui est réaliste et qui a l'air de déranger. Je sais pas qui est dérangé vraiment par ce manga, mais ça a l'air de déranger.
Bah, en fait, c'est un titre très politique, ce qui n'est pas très habituel dans le manga.
Ne parle pas vraiment de politique.
Non, mais qui en même temps amène des sujets vraiment très très actuels et très internationaux aussi, parce que souvent le manga a un côté, on pourrait dire des fois un peu lisse dans la manière d'aborder les sujets, qui est un médium qui va pas forcément frontalement aborder des sujets vraiment sociaux ou sociétaux et tout. Et lui, Darwin's Incident, peut-être aussi parce qu'il ne se passe pas au Japon, c'est un titre qui vraiment amène des thématiques politiques très pointues et très actuelles et de manière vraiment très prégnante, quoi. Et je pense que c'est ça qui déstabilise parce que, encore une fois, le manga n'est pas un art qui nous a habitués à ça. Et nous, je pense que dans l'équipe, c'est ça qui nous plaît beaucoup dans ce titre. Je pense que c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on a envie de continuer à en parler, quoi.
Moi, je pense que c'est le titre dont j'ai le plus envie de parler parce que effectivement, il y a toute la portée politique, sociétale, mais j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu souvent le côté action qui est vraiment hyper prenant dans ce manga. Et en fait, plus j'avance dans cette série et plus je me rends compte qu'au début je trouvais l'auteur un petit peu naïf dans sa manière d'aborder ce genre de thématique, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un animal, à quel moment les deux peuvent commencer à se fusionner. Et en fait, moi je comprends complètement les gens qui ont été choqués par l'animé parce que le manga m'a choqué à certains moments, il m'a choqué, mais le manga est là pour ça, pour interroger justement ce genre de relation. Et je trouve que honnêtement, pour moi, c'est un peu à l'heure actuelle un des mangas un peu parfait, tu vois, je trouve, où il y a ce bon mélange d'action. Alors je trouve qu'au niveau d'action, ça ressemble beaucoup à Ajin, c'est de l'action sèche, c'est très bien découpé, c'est très bien dessiné aussi, et en même temps t'as toutes ces réflexions qui sont, je vais pas trouver mes mots là-dessus, mais sur la relation entre les espèces, entre l'homme, l'animal, que au début j'ai trouvé très candide, et au final c'est un manga qui m'a quand même fait poser des vraies questions. Donc moi j'avoue, s'il y a un titre dont je veux vraiment qu'on parle, c'est celui-ci.
Darwin's Incident, c'est signé Shun Umezawa, qui est venu en France, du côté de Lyon.
Mais il était où?
À Lyon.
À Lyon.
Et il n'est pas passé.
Il est pas, on n'habite pas à Lyon.
Il n'a pas prévenu, il n'a rien dit.
Si, il a prévenu
les gens de Lyon.
Lyonnais.
Les Lyonnais.
Les
gens de Lyon.
Il n'est pas allé dans la bonne ville, vu son titre.
Et ensuite, il a fait quelques interviews. Il est passé, Shun Umezawa, par ici. Il a eu donc son adaptation animée. Ce qui est fort pour un titre de l'Afternoon comme ça, en plus, c'est rare que ce soit aussi vite adapté de cette manière-là.
Ouais, et puis le manga n'est pas sexy, je veux dire, à adapter en animé, tu vois. C'est pas un.
C'est aussi graphiquement qu'il a fait parler sur les réseaux, d'ailleurs.
Ah oui, parce que il y a quand même une trame qui est beaucoup plus proche de certaines séries américaines. Il y a un côté très
concept,
quoi. Et pas forcément manga au premier abord, plus tout le côté très américain dont parlait Robin, par exemple.
Il y a une portée internationale et on a aussi, je crois qu'on en avait parlé, l'affiliation avec Kurosawa aussi. Il a un peu ce côté, c'est un auteur qui a vraiment à gérer la tension autour aussi de ces thématiques, mais en n'oubliant pas le côté malgré tout divertissant de son œuvre, quoi. C'est vraiment une œuvre qui te happe, quoi, aussi par sa maîtrise narrative.
Il y a le tome 9 qui est sorti au mois de janvier. Et sur toutes les fois où on en a parlé de ce manga, on n'est pas allé jusqu'au twist, je crois. Et ça serait pas mal, en plus, pour pouvoir aussi bien en parler. Donc voilà, si vous avez envie qu'on parle de Darwin's Incident, c'est vous qui allez décider sur le sondage.
Faites-le pour nous.
Faites-le pour Cagnard, alors.
Ouais, pour voilà. Cagnard.
Non, je crois que Cagnard, il va falloir plus le faire pour Ender Geister.
Ah, bah oui.
Ah bon.
Ender Geister, Cagnard, on y mélange beaucoup de choses. Un exorciste qui pirate les fantômes, mais dans un monde, comment dire, un peu...
Bon, Max, c'est bon, on s'en fout là de l'histoire de Ender Geister. Ender Geister, c'est un pur manga de plaisir d'action, un pur plaisir de référence cinématographique, ce qui peut être un des défauts du manga aussi, qui est très très référencé. Mais par contre, plus on avance dans la série et plus il se détache de ce côté référencé. Et moi, c'est vraiment une série que j'adore. Alors, pour le coup, c'est pas une série qui me fait réfléchir, c'est juste une série dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir parce que il y a tout ce que j'aime, c'est vraiment les ingrédients que j'aurais adoré lire adolescent, tu vois. Il y a du mystère, il y a des pouvoirs super puissants, il y a des persos qui sont référencés ciné, encore une fois un peu trop, mais en même temps tous les mangas ont des défauts, et j'adore ce manga, je le prends vraiment énormément de plaisir. Ce manga que j'ai pris au début comme juste un gros divertissement où voilà, ça va tirer dans tous les sens, il y aura des pouvoirs un peu de Jujutsu Kaisen d'ailleurs sur ce niveau esprit.
En même temps, il y a des exorcistes.
Ouais, oui. Mais il y a des guns aussi.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça que je trouvais assez original. C'était le côté mélange magie-gun, quoi. Tu vois, c'était assez sympa aussi.
Ouais, ça marche bien. Et en vrai, plus on avance dans la série, et plus on... Bah, enfin, non, c'est sans surprise, mais genre, il y a un vrai scénario, en fait, qui se développe.
Après, pour le coup, c'est quand même très série Z, quoi. Enfin,
alors,
je veux dire,
non, 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 bah non, bah non, bah non.
C'est pour ça qu'il faut que vous votiez pour...
Auditeurs du monde entier, n'écoutez pas ce genre de diatribe. Ce n'est pas de la série Z, et même si c'était de la série Z, ce n'est pas un problème en
soi.
Mais
non, c'est pas un problème.
Un très bon film d'action.
Bah oui.
Sera de la série Z.
Bah non, mais par contre, il y a tellement d'éléments qui font référence, qui font des clins d'œil, avec aussi beaucoup de gore, beaucoup de choses qui sont
il
peut, à,
il est
un
pas
peu...
si gore que
ouais,
ça.
Ouais, mais il est quand même à la limite beaucoup de choses, parce que il essaye justement de trouver le bon ton entre l'action. Poussé assez loin avec des situations absurdes avec
je vois
des jolies
ménettes de faire, oui.
Des belles pépées.
Exactement.
Je vois ce que vous essayez de faire, vous essayez de dégoûter les auditeurs de ce titre.
Ah non,
mais c'est juste un vrai bon kiff et on voit très bien quelles sont les inspirations de l'auteur. C'est vraiment du Tarantino Rodriguez.
Oui, voilà.
et on y est, et pour un petit kiffeur comme moi, bah c'est du kiff de lire Ender Geister, et moi j'ai vraiment grave envie d'en parler, même s'il sait que je suis tout seul. Ben, je finirai tout seul dessus.
T'es pas tout seul, Cagnard, mais faut que tu répondes à cette question. Est-ce que tu aurais suffisamment d'analyse à produire en 20 minutes pour parler d'Ender Geister ?
De toute la série ?
De toute la série ?
Non. Non, non, parce qu'il y a vraiment énormément de trucs, et il y a même énormément de trucs sur ça. La relation de l'auteur par rapport aux références qu'il annonce. Il y a un truc hyper intéressant là-dedans.
Oui, mais t'aurais suffisamment à dire, donc.
Ah pardon, je croyais que si tu me demandais si 20 minutes ça allait être suffisant.
Ah ouais. Ah. Moi je croyais que tu faisais de la psychologie inversée, genre tu veux pousser les gens à le voter pour lui pour justement te voir galérer à analyser un truc qui est,
ah mais
qui
ça
est pas analysé
en
20 minutes, mais en fait voilà.
Je suis pas un tortionnaire. Non, non, lisez si vous avez envie de lire ou pas, tu vois.
Ender Geister,
c'est
15 tomes.
Ouais, c'est Cagnard.
Enfin 15 tomes, 20 minutes ça devrait aller.
Bah par contre les 15 tomes se lisent en une heure, je pense. À peu près.
Non, pas une heure, t'exagères.
Ouais, ça va. 30 minutes.
T'exagères encore une fois. Ender Geister, c'est signé Takashi Yamoyama.
Et le cool. Ouais, bah, il n'y a pas plus cool que Ender Geister.
Okay. Mais c'est Takashi Yamoyama qui est le cool.
En français, ça se dit le cool.
Ah, d'accord, très bien. Ender Geister, c'est aux éditions Glénat. On enchaîne avec un autre titre des éditions Glénat qui s'appelle Full Night. Dans un monde sans soleil, et devenir une plante, c'est peut-être dans ce monde la seule façon de survivre, Robin.
Ouais, moi, c'est un titre que j'ai vraiment énormément aimé à sa sortie et que je continue à suivre. C'est vraiment un... Bah, on parlait de politique tout à l'heure et je trouve que, en fait, c'est un titre qui sans avoir l'air de sans en avoir l'air, parle beaucoup de politique aussi, de notre rapport voilà à la, comment on pense la société, etc. Il y a vraiment un truc vachement intéressant là-dessus sur comme tu dis, c'est, on est dans un monde sans soleil et le principe c'est que les il y a plus de plantes et pour faire des plantes on propose aux gens un peu on va dire qui sont
démunis,
qui ont plus de sous, qui ont plus de ressources, etc. De en gros comme une forme d'assurance vie quoi. donnez-nous votre corps pour devenir une plante et nous on vous assure le fait que vous allez continuer à vivre et on va assurer la survie de votre famille, etc.
On appelle ça un viager aujourd'hui.
Voilà, et en gros je trouve que c'est une manière d'amener cette réflexion sur les invisibles, les gens qui vraiment en fait finalement donnent leur corps pour faire survivre l'humanité. Enfin, il y a vraiment un truc très très profond, très philosophique dans cette œuvre, et avec aussi une patte artistique je trouve quand même hyper originale dans le paysage manga. Enfin, moi c'est vraiment un titre que je trouve passionnant, et on en a finalement parlé au moment où c'est sorti et on n'en a pas tellement reparlé depuis, et je trouve que c'est un titre qui se dévalorise pas au fil des tomes, bien au contraire. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler. Donc votez pour Full Night.
Alors, il est dans le sondage depuis pour la troisième année maintenant. Il n'a toujours pas gagné.
Non, mais il n'est pas loin à chaque fois.
Après, c'est notre...
À chaque fois, exactement, il n'est pas loin. Il est à la limite. C'est juste qu'il y a d'autres titres qui lui passent devant, mais sinon, il a des bons scores à chaque fois.
Et puis, c'est notre taf, justement, de pousser les auditeurs à lire. Et vraiment, Full Night, pour moi, c'est vraiment Ikigami version 2022-23 et beaucoup plus végétal. Mais complètement, t'as ce rapport à la société qui est hyper important, avec un high concept et tout. Et en plus, c'est un manga qui est assez poétique et qui est cruel en même temps. Enfin, c'est une série que j'adore.
Et même, alors sans nous jeter des fleurs, je pense que c'est le genre de titre qui a besoin de médias comme le nôtre pour se faire connaître aussi et se faire découvrir, parce que c'est pas un titre facile, c'est pas un titre grand public, mais je pense que si vous êtes amateur de manga un peu exigeant, c'est typiquement le genre de titre qui peut vous plaire aussi.
Le pire, c'est que je le trouve pas difficile d'accès.
Non,
quoi, quand
mais
tu commences.
Tu vois,
côté difficile, c'est d'attraper le manga et de passer
après,
en caisse.
Il y a aussi tout le côté science-fiction qui est aussi une étape en soi, en plus du côté manga de science-fiction. Enfin, tu vois, il y a niche.
Et,
quoi.
Exactement. Et graphiquement, il est pas dans les canons, tu vois, du manga grand public, mais vraiment, c'est un titre qui a vraiment une âme. J'ai trop envie d'en reparler. Quoi.
Il y a 10 tomes disponibles pour Full Night de Kasumi Yasuda. On arrive donc à la moitié des titres qu'on vous propose dans ce sondage. À l'instant, on parlait donc de Full Night. Juste avant d'Ender Geister, de Darwin's Incident, du manga Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest, et de Akane Banashi. Ça, c'est la première moitié. On passe à la seconde et on commence avec un manga français, Radiante. C'est le moment qu'on n'a pas parlé de Radiante.
Bah oui.
Et elle est dans cette liste. Vous pouvez voter pour Radiante. Alors, Radiante, l'histoire, on est loin là, l'histoire du début. Seth, il est aspirant apprenti sorcier. Tout le monde le déteste parce qu'il a des cornes et il veut détruire le Radiante, ou trouver la source.
Effectivement, il a fait beaucoup de chemin depuis.
Et depuis, il a fait quand même un peu de chemin, ouais.
Et c'est ça qui est super cool, c'est que à travers ce chemin, tu vois toute la société que Tony Valente a créée dans ce manga. Et encore une fois, il est grave question sociétale.
Et de politique.
De politique, oui. Dans un shonen, c'est trop bien d'avoir ce genre de choses.
Et c'est 19 volumes en plus, hein, donc effectivement il y a de la matière, et je pense qu'on n'en avait pas parlé vraiment depuis la sortie de l'animé, donc on était, je pense qu'il y a une bonne petite dizaine de volumes.
Non, on a parlé du spin-off.
On a parlé du spin-off, mais voilà, on n'a pas parlé de l'histoire principale et de ce que Tony avait
tourné. T'as même conseillé à un auditeur de commencer par le spin-off.
Non, non, j'ai pas du tout commencé par le spin-off.
Je suis intervenu, mec, j'ai dû intervenir. Genre, mais
ça, c'est
attendez,
parce que tu as eu des problèmes de lecture à ton grand âge, je le comprends.
Mais bien sûr, j'ai toujours eu des problèmes de lecture, ne te moque pas de moi pour ça.
Mais avec des bonnes lunettes, tu vas t'en sortir, tu vas relire mon message et tu verras que je n'ai pas du tout conseillé de commencer par le spin-off. J'ai dit qu'on pouvait lire Fabula Fantasia sans avoir lu Radiante, ce qui n'a absolument aucun rapport. Parlons donc de Radiante de Tony Valente. Manga d'action, manga d'aventure, le manga d'aventure français qui cartonne dans le monde entier, avec un univers riche, l'univers qui est en expansion constante, des thèmes forts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Radiante ? Qui ne connaît pas Radiante aujourd'hui ?
Je ne sais pas.
Pas mal de monde, en fait, encore parmi les lecteurs. Moi, en fait, j'ai un problème avec Radiante. J'adore la série, évidemment. Mais j'ai un problème de Radiante avec notre émission. C'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on est censé en reparler, tu vois. La série n'est pas finie, la série n'est pas à la moitié non plus.
Là, c'est
une occasion, mais en fait, même moi, là, je sais pas s'il a envie de parler de Radiante, là, tout de suite, tu vois.
Et tu ne sais pas si tu veux que les auditeurs votent pour Radiante ?
Ah bah... Non, votez pas pour Radiante, votez pour Endergeister.
Oh non, parce que en vrai,
mais vous savez très bien que j'adore Radiante, ouais. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce manga que si ça en parlait 20 minutes pendant une émission, moi en vrai ça me saoule.
Toi tu veux une émission spéciale Radiante ?
Non, trois émissions. Pourquoi une émission ? Il y a 19 tomes quand même, plus des spin-offs et tout. Enfin, Radiante, là on est quand même sur un. C'est comme si tu me disais on va parler de Dreamland pendant 20 minutes, tu vois. Je vais te dire oui, on peut, mais ça va.
C'est triste.
C'est vraiment pas suffisant, ouais. Quoi.
Je comprends aussi. Mais c'est quand même l'occasion d'en parler.
À côté de ça, je précise que je trouve que c'est littéralement un des meilleurs shonen qui existe à l'heure actuelle, hein, vraiment.
Donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut voter pour Radiante ou pas ?
Non.
Mais si.
Non.
Mais de toute façon, c'est pas toi qui décides ce que les électeurs font. Hein.
C'est pas moi qui décide, c'est les Japonais. Je sais, ok, je sais.
Enfin, c'est le concept du manga en même temps. Hein. Tu peux pas,
sauf sur celui-ci.
C'est vrai.
Même là, figure-toi, et il est contrôlé par
oula.
Une diaspora.
Alors attendez, à n'importe quel moment...
Je suis parti en live là.
À n'importe quel moment, on prend le téléphone, on appelle Tony, on lui dit « fais pause ». Tu ne publies plus rien. Et oui, non, ça n'aurait pas de sens non plus.
Tu mais t'arrêtes maintenant, ok.
Radiante, c'est trop compliqué. Radiante, pour moi, c'est un peu comme Naruto. Tu vois, c'est genre, tu peux pas me donner juste 10 minutes pour parler de Radiante.
Ça tombe bien, c'est 20 minutes hein, par manga. Donc t'auras pas 10.
Si déjà je prends 10 minutes.
J'attends de te voir 10 minutes seul.
20 minutes tout seul sur Radiante. Maximilien.
Encore une fois, on est en psychologie inversée là. Il est là, vraiment. En fait, il veut que vous votiez pour Radiante.
C'est ça, exactement. 19 tomes de Radiante sont disponibles en librairie aux éditions Ankama, signé Tony Valente. Parlons maintenant d'un manga que vous ne connaissez probablement pas parce que vous n'êtes pas nombreux à le lire, mais pourtant, il vaut le coup. Ce titre s'appelle, retenez bien ce nom, vous l'entendez sûrement pour la première fois dans cette émission, A Journey Beyond Heaven. L'histoire de deux ados dans un Japon post-apo qui le traverse pendant que ailleurs des enfants vivent dans un paradis parfait. Double narration brillante, monde post-apo, monde qui nous rattrape. Tout est incroyable dans ce titre.
Adaptation animée, genre
j'avais
vraiment.
Oublié, c'est vrai.
En fait, c'est un blockbuster le truc. C'est les gens ont l'air de pas savoir de quoi on parle, mais en fait, voilà, c'est un
numéro un des mangas sous-côté.
Hey,
c'est vrai.
Ouais, j'aime bien cette stat. Numéro un des mangas sous-côté, ouais, j'aime bien.
Non, mais voilà, il y a du mystère qui est constant, qui est jamais gratuit. Il y a des scènes choquantes, il y a des passages abusés, il y a des personnages hyper attachants, il y a une aventure constante, un mystère qui t'oppresse aussi par moment. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce titre. Mais encore et encore, ouais. Alors qu'il avait fait partie des élus sur notre première année des mangas à suivre, il y a 2 ans maintenant.
Mais ouais, mais en même temps, il se passe tellement de choses dans ce manga qu'on a l'impression que chaque fois qu'il y a l'occasion de faire une émission manga à suivre, il faut en parler parce que les twists sont trop nombreux. C'est vraiment le genre de manga qu'on aime parce que l'univers se dévoile aussi petit à petit avec les personnages. En plus, on a cette espèce de double narration. Là, bon, là en plus, ça devient une espèce de double narration qui en devient qu'une. Mais bon, bref, c'est...
Ne spoil pas.
Voilà, on ne spoil pas trop, mais vraiment, tu vois, genre... l'autre fois, je suis allé dans une librairie manga, Le Renard Doré, pour ne pas les citer, et une des rares librairies manga qui les avait en stock et où j'ai un peu fait mon j'ai complété ma collection. Alors, quoi. Non, j'ai complété ma collection et j'ai acheté, voilà. Mais
vous avez qu'un tome de chaque.
Mes 4-5 tomes de Journey Beyond Heaven, et vraiment, le à la caisse, il m'a dit... Ah, cette série, elle est trop bien et tout. Et là, tu vois, j'ai rien fait. On se sait, quoi.
Ouais, c'est ça. On se sait.
Il y a le badge. Le club secret.
Mais voilà, il faut vraiment que, je sais pas, on peut pas suffisamment porter la bonne parole sur ce titre. C'est vraiment une des meilleures séries de ces 10 dernières années. Il faut que tout le monde le sache, quoi.
Journey Beyond Heaven, c'est signé donc Masakatsu Ishiguro. C'est déjà 12 tomes. Hein. Ça fait du coup en 2 ans, ça a bien avancé, ouais. Ouais, ça a bien étoffé. Surtout qu'en plus, il y a 2 ans, on s'est arrêté juste avant un moment clé parce que le tome venait tout juste de sortir. Donc là, on a en vrai, on a quand même à dire sur...
Oui, il y a plein de choses qui sont...
On a 5 ou 6 tomes, je crois, sur lesquels on peut parler et sur lesquels on n'avait pas encore parlé.
Enfin, pour moi, c'est aussi un titre politique. Hein. Enfin, au final, il y a vraiment beaucoup de réflexions sur faire société, faire sens, enfin, des choses qui nous animent beaucoup. Donc, il a parfaitement sa place dans notre sélection et dans nos goûts, quoi.
Petite mythologique aussi, qui emprunte énormément à la mythologie qu'on connaît assez peu autour de la création du Japon.
Oui, mais il y a un fil rouge qui finalement peut-être mériterait d'être un peu plus explicité parfois, mais bon, c'est compliqué d'expliquer des choses sans trop en dévoiler. Enfin, on avait
sans
évoqué,
être trop frontal.
Ouais. Et puis il y a des choses que tu voilà, une fois que tu traduis certaines choses ou tu expliques certaines traductions, bah des fois tu dévoiles certaines possibilités, parce que il y a ça aussi, c'est que finalement les narrations se poursuivent et pour l'instant les questions s'amoncellent et on n'a pas forcément des réponses complètes, on a des éléments de réponse et on ne sait pas encore ce que ça va être.
D'autant que pour nous lecteur français, il y a des choses qui semblent plus mystérieuses que pour un lettré japonais.
Oui,
tu vois ce que je veux dire ?
Oui, un petit peu comme pour Babel peut-être, où ça prenait des traditions japonaises médiévales et compagnie, où là nous on
même
a
si
aucune...
Babel il a vrillé, mais oui, effectivement.
Ouais. Babel mais... c'était beaucoup plus mixture vraiment
mythologique médiéval peut-être.
Oui, mais non, parce que le titre est quand même une référence directe au christianisme, alors que là c'est beaucoup plus centré sur le Japon, comme dit Max, et effectivement c'est peut-être des choses qui sont complètement mystérieuses pour beaucoup de lecteurs.
Et c'est marrant parce qu'il a quand même des pourtours qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. On est vraiment dans un truc de SF, post-apo, survie.
Bah, honnêtement, si t'as pas ces références-là, ça t'empêche pas d'apprécier.
Bien.
Enfin, moi, honnêtement, je les ai pas du tout, ces références-là. Et
ah non,
je
moi non
trouve
plus.
Que le titre est génial, quoi.
Et je vais remettre un petit coup quand même sur l'aspect touchant du manga, parce qu'on a parlé de l'aspect mystérieux, de l'aspect action. Même au niveau de l'action, c'est très bien découpé et compagnie. Mais les séquences qui sont touchantes, je trouve qu'elles sont vraiment très très bien réalisées. Et, c'est un titre qui touche au cœur, comme on dit, tu vois.
Journey Beyond Heaven de Masakatsu Ishiguro, c'est aux éditions Pika. Et on avait reçu dans cette émission l'éditeur japonais de l'œuvre dans une émission qu'on avait enregistrée dans un petit café en buvant du café avec des croissants.
T'as, vous aimez bien la rappeler hein, cette séquence genre.
Bah, elle était cool
parce que c'est trop cool en même temps.
Oui, mais j'y étais pas.
C'est
vrai.
Du coup, vous êtes là en mode cosy. Ouais, on avait un petit plaid, on était avec l'éditeur.
C'était le mois de juillet, il n'y avait pas de plaid.
On va révéler un secret pour les auditeurs. Quand on veut pas de canard dans une émission, on l'enregistre le matin et comme ça on est tranquille.
Méchant. Oh mec, t'es un bâtard en disant ça, parce que moi, je vous attends dès 7h du matin s'il faut. Hein. Ça dépend l'émission.
C'est vrai, il était là pour Radiant.
Mais c'est pas le matin, Radiant. C'est le fin de matinée.
Ah, si, c'était à ta rigueur. Bon, on était à 9h.
Ça y est, Maxime, il a fini. Il était là. C'était le matin. C'était à 9h du matin, l'interview avec Tony.
Ouais, ok, ça va. Donc, ça, c'était pour Journey Beyond Heaven, dont on a, qui était déjà donc lauréat, je mets des guillemets, de ce sondage de nos mangas à suivre. Lui, il est nouveau parce qu'il n'y avait pas encore assez de tomes avant. C'est Tsugai, le nouveau manga d'Hiromu Arakawa, l'histoire de jumeaux liés chacun à des entités mythiques qui deviennent ces jumeaux la clé d'une sorte de monde invisible qui est prêt à exploser, qui est prêt à explorer pour nous lecteurs. C'est le nouveau Arakawa, lisez-le.
Arakawa.
Oui, bah c'est génial parce que c'est la mafia de l'ombre, mais de l'ombre mystique en fait. C'est comment là où Jujutsu Kaisen fait dans des choses très spectaculaires, elle fait la même chose, mais à sa façon, de façon très très simple, quelques traits, voilà, pour occuper toute une page. Et c'est vraiment du très bon manga d'action, du très bon manga de situation, avec beaucoup de comiques, beaucoup de... Bah, voilà, comment un garçon qui a toujours vécu enfermé dans une idée du qui vivait dans le passé, enfin en tout cas
dans sa propre réalité,
sans technologie, sans accès à la médecine, et confronté à notre univers à nous du 21e siècle, qui découvre qu'il y a des antibiotiques, waouh, ou qu'il a pas besoin de chasser pour se nourrir.
Relecture de Tarzan, quoi.
Non, mais c'est franchement trop facile. Non, mais après le tout, encore une fois, c'est vrai que c'est très porté sur la mythologie, le folklore japonais, avec des yokai, des trucs qui moi j'aime bien, parce que ça fait toujours son petit effet d'imaginer les pouvoirs qui vont être mis en place, qui vont devoir être appréhendés pour que les différents personnages réussissent à leur quête à chacun, et comme elle fait très souvent, il y a beaucoup beaucoup de personnages et personne n'est laissé sur le côté, ce qui est aussi une force en soi d'être une espèce de super JO comme ça, de pouvoir entraîner toute une colonie derrière elle, et que ça reste cohérent et drôle et intéressant à lire, quoi.
Moi je trouve ça en fait finalement assez rare d'avoir une autrice, un auteur même au sens large, avoir produit une œuvre aussi culte dans le shonen qui est Fullmetal Alchemist, et de revenir avec une œuvre qui s'inscrit un peu dans le même, on va dire, registre, et de le faire sinon aussi bien, en tout cas d'en faire une œuvre qui n'est pas du tout déceptive, tu vois. Genre, je pense que si t'as été fan de Fullmetal, qui est vraiment une œuvre cultissime, tu vois, genre, tu peux apprécier aussi Tsugai et de retrouver vraiment, tu sais, il n'y a pas ce syndrome de j'ai fait une œuvre ultime et qu'est-ce que je peux faire derrière. C'est vraiment une autrice qui a prouvé qu'elle était capable de derrière faire des choses vraiment très intéressantes. Et moi, je trouve qu'en plus, je me suis fait réflexion il n'y a pas si longtemps, mais je trouve que Tsugai, il y a un truc vachement intéressant dans cette œuvre. On a un peu l'impression que c'est la conjonction entre deux facettes de l'artiste, c'est-à-dire elle a fait soit des œuvres qui étaient dans des univers complètement imaginaires, soit des œuvres qui étaient dans des univers très contemporains et très, on va dire, réalistes. Et là, dans Tsugai, t'as un peu la conjonction des deux univers qui se croisent, et c'est un truc vachement intéressant aussi de voir comment une autrice qui a si bien maîtrisé les deux registres arrive à combiner ça dans une œuvre. Et vraiment, je trouve que c'est pas une œuvre où il y a beaucoup de tomes actuellement, donc c'est difficile aussi de se projeter, mais en tout cas, c'est trop agréable de retrouver cette autrice au top de sa forme.
Le tome 9 est sorti au début du mois de mars.
Moi je conseillerais de pas voter pour Tsugai, parce que j'avoue que c'est une série qui m'a un petit peu déçu. Après, vous connaissez mon amour pour Horakawa, il est très très bas. J'ai été très très ambiancé au début, et finalement je trouve qu'on est dans les mêmes travers habituels.
Psychologie inversée.
Ah non, là, pas du tout. C'est vraiment épargnez-moi s'il vous plaît. J'ai pas envie de relire Tsugai.
Non,
c'est pas
bien.
Pour moi. Non mais attendez, tout le monde peut pas être gagnant, hein.
Oui, et dans tous les cas, on t'en parlera pas, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, hein.
Oui, mais si je peux pourrir certains titres pour en mettre d'autres en avant, je le ferai.
Parce que t'auras pas le temps de préparer les autres, tu sais. T'auras pas le temps de tout préparer tu gagnes sur tous les titres.
C'est plutôt que je le sais, surtout que je vais m'en prendre plein la gueule des fans de Full Metal, et j'avoue, je suis un peu chaud.
On est d'accord. Donc 9 tomes disponibles pour Tsugai. L'autre truc que je trouve super intéressant aussi pour ce type de manga d'aventure, c'est la lisibilité créature/pouvoir. Et ça, c'est toujours un kiff. À partir de ce moment-là, à partir du moment où je trouve ça créatif et où ils s'en mettent plein la tronche de manière originale et lisible, j'adore.
Lisibilité au sens large, hein, c'est vraiment un titre qui est... Enfin, voilà, tu peines jamais à comprendre ce qui se passe malgré le fait qu'on est encore une fois dans un contexte complètement imaginaire, enfin semi-imaginaire, et tu comprends tout ce qui se passe, quoi.
Passons maintenant à l'avant-dernier titre de cette liste. Ça s'appelle Bugle Call. On est dans une guerre sale, absurde, où le simple son d'un clairon peut décider de qui vit ou meurt. Les X-Men version Moyen-Âge et oui, manga.
Oui, résumé comme ça, ça me paraît à peu près honnête. Je me présente, Maître Cagnard, défenseur de Johnny ici, qui avait cité que Bugle Call était le banger.
Le véritable banger.
Et j'avoue que moi, je le rejoins full. Vraiment, le manga se bonifie vraiment avec le temps, et plus on avance et plus c'est mystérieux, et plus ce mec avec une tête de sifflet m'énerve, et de plus en plus je trouve ça passionnant. C'est vraiment un coup de cœur. Ça n'a pas été forcément le cas au tome 1, mais plus ça avance et plus je vois un mélange de Vinland Saga, de Vagabond, de Berserk. Je vois plein de trucs dans ce manga, en fait. Les possibilités sont infinies, parce que même d'un point de vue temporel, il nous a déjà donné quelques indices de Attention, vous n'êtes pas forcément à l'époque que vous pensez être. Et vraiment, ce manga, je l'adore. Glo, merci. C'est grâce à toi.
Déjà 8 tomes hein, pour The Bugle Call. Le tome 9 sort au mois d'avril, mais on va se concentrer seulement sur les 8 premiers tomes si vous votez pour ce titre. Et là aussi, quand il est question de pouvoir, de lisibilité et de la manière dont ils interagissent entre tous ces êtres qui ont des pouvoirs, ça donne des bastons absolument géniales.
Les bastons sont ouf et les personnages sont tous tarés, ils sont tous dingues. Moi, c'est ça qui m'attire le plus. Au bout d'un moment, l'histoire est quasiment devenue secondaire pour moi parce que on sent que c'est un truc très mystérieux et tout. Mais les personnages, je trouve qu'ils ont justement ce petit côté. Tu sais, on en parle souvent avec Blue Lock et compagnie, le regard de la folie.
C'est
de
ça.
Vraiment.
Tu sais ce que je trouve qui marche bien sur la folie, en fait, c'est que c'est leur folie et le revers de leur pouvoir.
Exactement.
Cette brutalité assez formidable.
Et en plus, il y a ce truc de leur folie dépend aussi de ce qu'ils ont vécu. Et il n'y a que des histoires tristes dans ce manga.
Évidemment.
Moi, je persiste à signer. Bugle Call n'a pas d'animé encore. Le jour où il y a Bugle Call qui est un animé, ça va partir en couille. Hein. Ça va devenir. Enfin, ça va partir en couille. Mais tu sais, c'est comme Hell's Paradise. C'est un manga dont on a beaucoup parlé. Et je vois qu'il pop depuis 2 ans grâce à l'animé et compagnie. Et il y a vraiment ce truc. Je pense que Bugle Call en animé, avec la musique, je pense qu'on est sur un banger. Enfin, je reprends les mots de Joe, mais vraiment, on est sur un truc qui va prendre un level up en plus avec l'animé. Je ne regarderai pas l'animé, hein, mais...
Ça va partir surtout, en coup de clairon, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans les conservatoires, les gens vont arriver en faire « Ouais, je veux faire du clairon.
Ah ouais,
qu'est-ce qui se passe ?»
Tellement original.
Manga de stratégie aussi. Manga de guerre et de stratégie aussi. Ça, c'est important pour moi, qui suis fan de manga de stratégie.
Je te laisse parler de la stratégie.
Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, tu sais qu'à chaque bataille, il va y avoir un plan minutieux qui ne sera absolument pas respecté, mais il y aura le plan minutieux et ça sera super intéressant. Bugle Call, c'est signé Mosoku Sora et Igoro Tomori et c'est déjà 8 tomes disponibles en France. Place au dernier manga de la liste maintenant, DRCL Dracula Midnight Children, le manga de Sakamoto. Ça y est, on a 7 tomes, on peut en parler un peu plus. Au 1, on s'est dit ok, c'est un peu juste. Au 2, c'est encore un peu juste. C'est bon, là maintenant on a un petit peu de marge, on peut parler de ce manga qui revisite l'œuvre de Dracula, tout simplement.
Enfin, de Bram Stoker.
De Bram Stoker, oui.
En l'occurrence, et qui donc, reprend donc, le roman de Bram Stoker, mais vraiment très, très, très revisité. Mais c'est vraiment très... donnez-moi un D, donnez-moi un R, donnez-moi un C, donnez-moi un L, ouais.
Ah ben, il y a tout dedans, le côté pop culture très shiny et tout.
Il y a des paillettes partout. C'est une comédie musicale.
Mais graphiquement, il est hallucinant.
Ah, graphiquement, oui. Évidemment. Mais sur le ton, je viens de penser à un truc. C'est Dracula par Baz Luhrmann, tu vois. C'est vraiment le côté Moulin Rouge et tout, tu vois. C'est excessif et en même temps c'est magnifique et en même temps c'est cruel. Comme d'hab dans les titres de Shinji Sakamoto, c'est toujours des ovnis. Il peut parler d'escalade, il peut parler de vampires. C'est toujours né pour cogner. Si vous vous souvenez de cette vieille série de Sakamoto, le mec est toujours original dans son approche des récits, quoi.
C'est une expérience visuelle, c'est une expérience sens, c'est une expérience.
Oui,
tout simplement.
Et puis enfin, il y a aussi ce côté très amusant de voir ce qu'il a fait de quelque chose qui est ultra connu. Donc que ça soit l'œuvre de Bram Stoker qui est donc l'œuvre originale, mais par-dessus toutes les couches de pop culture qui sont ajoutées, les films de vampires, les films de Dracula, le Coppola, etc. Et là, il en fait une espèce de super empilement façon burger, façon pancakes.
C'est ambitieux, c'est, malgré tout.
Ah, mais c'est hyper ambitieux. Et c'est ce qui est intéressant à chaque fois avec ce genre d'objet culturel qui triture, parce que vraiment, il y a ce côté expérimental et il va faire des références et des clins d'œil à toutes les œuvres qui l'ont précédé. Mais il y a aussi cette envie de rester divertissant, de rester étonnant, surprenant. Et finalement, on est toujours vraiment dans l'émerveillement. Et c'est là où finalement tu comprends que tu as été pris dans le jeu de cet auteur. C'est que tu devrais éprouver de l'effroi, tu devrais éprouver des choses très très violentes et contradictoires. Et en fait, tu es quand même happé par la beauté qu'il te met sous les yeux, quoi.
Puis il y a le côté adaptation, je trouve qu'il prend au premier pied de la lettre, tu vois, enfin pas au premier d'ailleurs, ça veut rien dire, mais il prend le terme d'adaptation au pied de la lettre, dans le sens où il va les mettre, tu vois, moi je vois ça limite comme un clin d'œil, dans les personnages il y a des Renois, et tu sais, il y avait eu toute cette polémique autour du Seigneur des Anneaux, les elfes ne peuvent pas être noirs ou peuvent être noirs et compagnie, et lui il fait une adaptation où, qui est tellement moderne qu'en fait il s'en fout de tout ça, il va mettre de la comédie musicale à un moment, il va mettre des Renoir à un moment dans l'histoire. Enfin, je trouve qu'on est dans l'adaptation la plus pure. Elle est folle, mais c'est exactement pour ça qu'on est là. Tu vois, c'est genre pour avoir une adaptation folle de Dracula, parce que la figure, le mythe du vampire, il est utilisé, réutilisé, réutilisé de plus en plus. Avoir un truc qui est complètement what the fuck, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin sur le mythe du vampire qui a été surexploité ces dernières années.
Il y a 6 tomes de disponibles en France avec le tome 6 qui est sorti au mois de février des RCL Midnight Children. C'est signé Shinichi Sakamoto et ça fait partie des 10 mangas à suivre en ce moment pour nous. On avait une liste un peu plus grande, mais à chaque fois, il fallait au moins qu'on soit deux sur les mangas pour pouvoir vous les proposer dans les votes cette année.
Qui est-ce qui est avec moi sur Under Geyser ?
C'est moi, Kanya.
Ah, merci, putain, merci.
C'est le plaid,
merci.
Souviens-toi.
Sinon, il n'était pas dedans.
Mais ouais, je me doute.
Je t'ai sauvé la vie sur ce
coup-là. T'inquiète, t'auras ton billet.
Merci. Sympa. Cool. Je vous refais la liste des 10 mangas. Donc, à l'instant, on parlait de DRCL Midnight Children. Juste avant, on parlait de The Bugle Call. Ensuite, on parlait de Tsugai de Hiromu Arakawa. Boum. On a également parlé de Journey Beyond Heaven,
ouais,
de Masakatsu Ishiguro. À un moment donné, on a parlé de Babel the New Akendan, mais il n'est pas dans cette liste, donc ne votez pas pour ce titre.
Non, mais il y a une très bonne émission.
Exactement, il y a une très bonne émission, vous pouvez écouter sur ce manga. Comme il y a une très bonne émission sur Full Metal Alchemist, que vous pouvez écouter si vous ne l'avez pas encore fait. On a parlé de Radiant, qui est dans la liste, et il y a une très bonne interview de Tony Valente.
Mais pas tout de suite.
Si vous pouvez l'écouter.
Non, pardon, juste le commente.
Qui d'ailleurs a été cité dans Télérama.
Ah bon ?
Oui, c'est vrai.
Dans les podcasts à suivre, si on veut s'intéresser au manga français, notre épisode avec Tony Valente était recommandé par Télérama.
Bah, c'est vrai que l'interview était drôle quand même.
Bien que décousu, mais recommandé.
Oui. Oh là, c'est ce que le journaliste a
dit. Ils ont dit décousu.
Oui,
bah,
tout à fait.
Vas-y, on a eu 40 minutes. Oui, c'était décousu. En plus, moi, je suis arrivé énervé. Là, on avait plein de questions, tu vois. Oui, je peux comprendre le côté décousu.
Et donc, on avait également Full Night aux éditions Glénat de Kisumiya Suda. On a également Ender Geister, Darwin's Incident,
mais mec,
Dans le sens du vent nord-nord-ouest et Akane Banashi. Vous avez cette liste sur le sondage. Vous avez le sondage sur nos différents réseaux sociaux, sur le blog la5emdecouv.fr, la5edecouv.fr. Vous tapez sur Google la5emdecouv, vous tombez aussi sur le blog de l'émission. Les liens sont sur tous nos réseaux sociaux. Normalement, vous ne pouvez rien rater. Là, vous avez tout. Il faut juste faire quelques clics et vous pouvez choisir les 6 mangas qui seront au cœur de nos émissions, nos mangas à suivre. Voilà, vous savez tout. La semaine prochaine, on va parler d'un manga à suivre de l'année dernière, mais qui se termine, ça y est. Gunm Mars Chronicle. La fin de Gunm.
Ah, c'est des belles histoires quand même. Hein.
On arrive au bout, on en parle la semaine prochaine. Puis après, c'est nos mangas à suivre. C'est le résultat du sondage. Les mangas pour lesquels vous avez voté. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On compte sur vous et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut. Votez bien. On sait où vous habitez.
N'écoute pas. Merci.